des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Après nos deux émissions sur les croyances, nous allons aborder une forme de croyance qui se répand malheureusement de nos jours grâce à Internet, le complotisme. Mais avant de vous faire réagir, docteur Dominique Demichel, je vous invite à écouter ce court extrait. Je précise que c'est un montage que nous avons effectué qui expose un scandale sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. Il s'agit d'un montage à partir du documentaire « Maltraité ».
Vu du côté de l'industrie pharmaceutique, on se dit qu'il y a toujours de l'argent à se faire parce que ça peut être des milliards d'individus touchés dans le monde. Si on trouve un médicament qu'on peut le breveter pour ça, ça peut faire des centaines de milliards de dollars de revenus. Malheureusement, quand il y a une pandémie, il y a des gens qui réfléchissent, il faut que je sauve en urgence le malade, et d'autres, ils pensent plutôt, tiens, il faut que je m'en mette plein dans mon porte-monnaie.
L'histoire est hélas régulièrement ponctuée par de nombreux scandales sanitaires qui confirme que l'industrie pharmaceutique cherche avant tout la rentabilité financière, sans considération pour la santé publique. Alors que le traitement du professeur Raoult à base d'hydroxychloroquine semble faire ses preuves sur les malades de la Covid-19, les autorités sanitaires françaises, ainsi que de nombreux experts, se montrent étrangement réticents.
Ils sont réunis, c'était validé par le président sans qu'il y ait aucune réunion, aucun vote, aucune déclaration des conflits d'intérêts. Donc c'est, déjà, l'avis du Conseil de la santé publique était totalement illégal.
C'est un scandale très très grave sur le plan de notre santé, de notre système de santé. D'abord, on a fait pire que ça. On a même conseillé aux malades de ne pas aller voir leur médecin.
Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache ? Tous les scandales de santé publique commencent comme ça.
Ce que révèle le professeur n'est pas un cas isolé, car la plupart des experts infectiologues français ont des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Le journal Science et Avenir en a calculé le nombre exact. 85% des spécialistes français les plus reconnus des maladies infectieuses ont touché de l'argent de Gilead Sciences. Au total, Gilead a versé 18,5 millions d'euros aux professionnels de santé en France depuis 2013.
Docteur Dominique Demichel, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors c'est sans doute le complot, entre guillemets, nous allons voir d'ailleurs ce que l'on entend par complot, que nous entendons le plus en ce moment, c'est le scandale de l'interdiction de l'hydroxychloroquine et la mainmise de l'industrie pharmaceutique sur les vaccins contre le coronavirus, évidemment avec des gros sous à la clé. Alors, docteur Dominique Demichel, dans ce très court extrait que nous avons bricolé sur Radio Grand Ciel, parce qu'il faut dire que le documentaire dure plus d'une heure trente, évidemment, vous n'avez pas le nom des personnes qui parlent, mais ce sont des médecins, des professeurs dont la compétence, a priori, n'est pas mise en doute, qui sont interviewés. Alors, il y a par exemple le professeur Christian Perron, qui a encore des fonctions prestigieuses. Le docteur Didier Raoult, qui a quand même des fonctions également assez hautes. Et puis, il y a Christian Estrosi, que l'on entend à un moment donné. Et puis, toutes sortes de médecins généralistes. Alors, on comprend bien la problématique qui va se poser à nous, c'est-à-dire que moi je ne connais rien à la médecine, je regarde ce documentaire, a priori pourquoi ne ferais-je pas confiance à des gens qui ont une carte de visite si prestigieuse ?
Je pense que vous avez tout à fait raison et je dois vous dire que même si je suis médecin, même si je lis, j'espère, les bonnes revues, il est vraisemblable que je n'en sache pas beaucoup plus que vous, ou en tout cas que je n'ai pas les compétences pour juger de l'efficacité ou de tel ou tel médicament ou de tel traitement. Ça relève d'une approche extrêmement précise, avec une épidémiologie, avec une surveillance, et ça, c'est un processus scientifique extrêmement rigoureux. Il y a une sorte de technique qui est utilisée, qui s'appelle en anglais EBV, Evidence-Based Medicine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il s'agit d'appliquer une médecine qui est basée sur des preuves. Alors, c'est important de se rappeler que les preuves marchent dans deux sens. C'est-à-dire, elles marchent dans un sens positif et dans un sens négatif. Pour prouver qu'un médicament est efficace, il faut avoir une cohorte de patients, il faut faire une étude en général contre placebo, c'est-à-dire on donne dans des conditions similaires, gélules, injections, protocoles, avec les mêmes protocoles, un médicament qui ne contient rien de particulier, en tout cas pas de substance active, et on regarde s'il y a des effets différents. Ces protocoles sont très très standardisés sur le plan international et il y a lieu de leur faire confiance, en tout cas. Voilà. Vous savez, on a dans un autre cadre, on y reviendra, fait la différence entre croyance et connaissance. L'efficacité des médicaments relève sur de la connaissance. Et par rapport à ce que vous disiez en introduction, je n'en sais pas plus que vous, sauf que je vais croire en en certaines personnes et je vais donc avoir une connaissance par délégation, c'est-à-dire je leur fais confiance. À partir du moment où on est sur une médecine basée sur des preuves, il y a lieu de faire confiance. Vous avez cité deux personnes, et j'ai envie d'en citer une troisième, qui est le professeur Montagnier. Je crois que de l'avis général, il est clair que et le professeur Raoult, et le professeur Perronne, et le professeur Montagnier se sont égarés. C'est-à-dire, pour des raisons que je ne connais pas, parce que je ne les connais pas personnellement et je n'ai pas suivi le dossier, ces gens ont dit des contre-vérités. Voilà. Pour l'histoire, par exemple, de l'hydroxychloroquine, c'est une histoire passée. Maintenant, elle n'est absolument plus utilisée dans le monde entier. Et par rapport aux propos du professeur Perronne ou même aux propos du professeur Montagnier, je crois que maintenant, plus personne n'accorde de crédit au contenu de leurs paroles. Ce qui prouve bien qu'il y a des gens qui peuvent être de très, très grande qualité. Je crois que ces trois personnages, en particulier le professeur Montagnier, qui est le co-découvreur du virus du sida quand même, peuvent être des gens de très grande qualité sur le plan scientifique, probablement sur le plan humain, mais qu'à un certain moment, ils peuvent déraper. Ce qui veut bien dire que la rigueur scientifique, le partage collectif d'une réflexion est tout à fait indispensable pour pouvoir dire que tel ou tel médicament est efficace.
Alors, je suis d'accord avec vous, docteur Dominique Demichel, il faut choisir à qui on fait confiance, et c'est bien là où le documentaire met le doigt. Choisissez à qui on fait confiance. Et il s'appuie évidemment sur des scandales que tout le monde connaît. Par exemple, le scandale du Mediator, les scandales sanitaires qui sont liés à l'industrie pharmaceutique. On sait qu'ils existent. Et donc, pourquoi choisir de faire confiance à l'industrie pharmaceutique plutôt qu'à ces personnes-là? C'est toute la question de ce type de documentaire.
Je pourrais vous donner des tas d'exemples. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans que j'ai un doctorat, en tout cas en médecine. Et je peux vous dire que même si personnellement, parce que j'ai eu la rigueur, la chance et le plaisir de lire de bonnes revues, des revues rigoureuses, je n'ai pas prescrit de médicaments qui se sont révélés par la suite dangereux, mais j'ai prescrit quand même des médicaments qui se sont révélés a posteriori inutiles ou sans effet. Pas beaucoup, dans des circonstances, dans des pathologies qui n'étaient pas des pathologies graves, mais au fond j'ai fait ça, pris dans un collectif d'informations qui n'était pas assez rigoureux. C'est très très important pour nous, prescripteurs de médicaments, mais c'est vrai pour toutes les prescriptions en général, peut-être de soins en tout cas, que nous nous appuyons sur des choses qui sont tout à fait prouvées. Voilà. Il y a en particulier, j'aime bien le dire, il y a une revue en France qui s'appelle la revue Prescrire. L'abonnement coûte extrêmement cher, hein, mais c'est une revue qui ne vit que grâce à ses abonnés. Vous voyez, donc ça, c'est la garantie, en tout cas on l'espère, d'une indépendance. Et puis vous savez qu'il y a eu des tas de progrès qui ont été faits. Maintenant, les études sont beaucoup plus rigoureuses qu'avant. Maintenant, tous les auteurs doivent déclarer, et je pense que dans la très grande majorité des cas, ils le font avec sincérité, le fait qu'ils aient ou non des conflits d'intérêts. Ça veut dire quoi, des conflits d'intérêts? Ça veut dire j'ai intérêt à être rigoureux, à dire une parole vraie, mais de temps en temps, comme je suis payé par un laboratoire, je risque peut-être d'avoir des trous de mémoire, des omissions, une lecture qui, sans être nécessairement mensongère, peut être marquée ou perturbé par des biais cognitifs, c'est-à-dire des erreurs de jugement qui sont liées au fait que je suis aussi le salarié d'un laboratoire. Voilà, donc cette rigueur, je crois, a fait beaucoup avancer les choses. Et on voit par exemple que depuis, peut-être ça fait même peut-être plus de 20 ans maintenant, la quasi-totalité des médecins, en tout cas c'est vrai pour les généralistes et une bonne partie des spécialistes qui travaillent en ville, ne reçoivent par exemple plus de cadeaux des laboratoires. Ça a été interdit, voilà, ce qui permet à chacun d'avoir plus d'autonomie. Mais je pense que ces petites choses, même si elles comptent, ne sont pas essentielles par rapport, j'allais dire, à la rigueur de la pensée qui fait qu'on prescrit un médicament si on a vérifié que son efficacité, en tout cas le rapport entre l'efficacité et la tolérance, était compatible avec ce qu'on attend de ses effets.
Alors, encore une fois, docteur Dominique Desmichel, vous êtes médecin, donc vous avez certainement un recul par rapport à toutes ces informations, mais encore une fois, quand on regarde ce documentaire qui dure plus d'1h30, je rappelle que Hold Up, qui avait vraiment fait beaucoup parler de lui, était encore plus long, plus de 2 heures, me semble-t-il. Nous sommes sur des arguments extrêmement précis. Donc en 1h30, je peux vous dire qu'ils vous détaillent tout. Et surtout, ils utilisent de vraies études de sciences et avenir, par exemple, avec des chiffres, des courbes et tout l'arsenal pour prouver ce qu'ils disent.
Alors, par rapport à ce dont on va essayer de traiter aujourd'hui, je ne me sens pas une compétence particulière pour pouvoir déchiffrer, défricher et dire tout ce qui relève d'une réalité objective, scientifique et rigoureuse et ce qui relève d'un biais cognitif avec une sincérité mais une absolue non-lucidité ou ce qui relève de la manipulation pure. Parce que bien évidemment, on a bien vu par exemple dans l'exemple du médiateur que le laboratoire avait fait des faux et plein de faux et on sait que ça s'est terminé par un procès et des condamnations. Donc, ce que j'ai envie plutôt d'essayer de vous dire aujourd'hui, ou dont on parle un petit peu aujourd'hui, c'est comment on peut essayer d'éclairer un tout petit peu notre lanterne et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'être un petit peu plus lucide. Voilà.
Alors, quels vont être, par rapport à cet exemple-là, selon vous, les indices d'un complot, complotisme, peut-être dans un premier temps, et ensuite, comment faire pour soit le démasquer, soit en tout cas ne pas se laisser influencer par ce genre d'informations.
Alors, plusieurs petites choses que je vous propose un petit peu de détailler. L'idée d'abord que souvent, il y a des gros méchants qui sont dénoncés. Ça, c'est quelque chose qui est important. La deuxième chose, c'est l'idée qu'il y aurait une sorte de signification et que tout ça, ça ne peut pas être lié au hasard. Le troisième élément, c'est que le refus de toute critique est même revendiqué. Ça, on va y revenir, c'est toujours un petit peu bizarre. Et puis, un élément qui est absolument fondamental, c'est que le plus souvent, ça repose sur l'émotion, sur l'affect. On va redétailler un petit peu tout ça. Et puis voilà, vous évoquiez la question du support. Hein. Je disais il y a quelques minutes que la notion de où est-ce que c'est publié est très très importante. Il y a des revues prestigieuses comme le New England Journal of Medicine, comme le Lancet par exemple, qui sont des revues tout à fait rigoureuses et pour lesquelles le comité de relecture est très très attentif. Pour des raisons probablement de probité, mais aussi pour des raisons qui sont moins nobles, qui est qu'il y va de la crédibilité de la revue. Et si une revue, à un moment, publie un article qui ensuite est invalidé, c'est pas très très bon pour la réputation de la revue. Donc, vous voyez, cette rigueur se fait au nom d'une éthique professionnelle, mais aussi d'un intérêt commercial, qui d'ailleurs, il n'y a pas lieu de regretter. Se dire, ben voilà, on utilise les deux choses, c'est-à-dire cette rigueur morale, cette rigueur éthique, qui est, j'essaye de dire au maximum, une forme de véracité factuelle. On avait reparlé de la différence entre la vérité et la véracité la dernière fois. Et puis en même temps, j'ai une réputation à soutenir et j'ai envie de garder cette réputation. Alors, peut-être on peut reprendre un petit peu ça avec d'abord l'idée, on retrouve pratiquement toujours des gros méchants dans l'ombre. Ça, c'est un mode de fonctionnement qui est très très fréquent parce que cela repose sur la technique du bouc émissaire. Cette technique du bouc émissaire a été beaucoup travaillée par René Girard il y a pas mal de décennies maintenant, mais ça fonctionne. On sait que ça fonctionne très très tôt hein, dans le mode de fonctionnement d'un groupe, par exemple. C'est-à-dire qu'à l'école, eh bien, souvent dans les petites classes, dès la maternelle, en tout cas dans le primaire, il va y avoir un ou une élève qui va servir de bouc émissaire. Vous savez qu'on en a beaucoup parlé avec les réseaux sociaux, puisque de temps en temps, une sorte de violence aveugle se déchaîne contre un ou deux élèves du primaire, du collège ou du lycée, et que ça donne de temps en temps des ravages. Donc, il y a l'idée que dans ces théories complotistes, on retrouve un gros méchant, c'est-à-dire des grands manitous derrière qui tirent les ficelles et qui ont qu'un seul objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible, ou de prendre le pouvoir sur le monde, ou de dominer les populations, et ça avec des moyens, voilà. Alors ça va de temps en temps de l'idée que du fait que les laboratoires aient envie de gagner de l'argent, c'est vraisemblable, et donc de temps en temps il s'agit d'être vigilant, jusqu'aux dispositifs les plus ésotériques ou les plus complètement farfelus, qui est que à l'intérieur des vaccins contre le coronavirus, en fait, il y a des petites puces qui s'implantent dans votre cerveau et qui vont faire ensuite que vous allez acheter tout ce que le commanditaire va décider à votre place.
Alors, par rapport à notre exemple, effectivement, là, on peut lister Big Pharma, les entreprises Gilead, qui sont prêtes à tout, donc même, évidemment, à sacrifier des vies en interdisant des médicaments qui fonctionneraient pour promouvoir leurs propres médicaments. Sur le premier point, docteur Desmichel, nous sommes bien sur une théorie du complot.
Oui, tout à fait. Alors, que certains médicaments aient continué à se vendre alors qu'ils étaient toxiques, ou en tout cas que leur efficacité n'était pas démontrée, ou que leur toxicité était trop grande, ça c'est tout à fait évident. Je rappelle que l'Agence nationale du médicament publie à chaque sortie de médicament, c'est-à-dire son autorisation de mise sur le marché, un rapport entre son efficacité et sa tolérance, et elle le compare avec l'idée que ça apporte ou non quelque chose. D'ailleurs, la revue Prescrire a, dans son intitulé de tous les médicaments qui sortent, c'est « n'apporte rien de nouveau », apporte quelque chose ou médicaments tout à fait utiles et extrêmement importants. Très honnêtement, il y en a à peu près un tous les 10 ans. Hein, ça, c'est pas beaucoup plus. Hein. Ça peut être d'ailleurs un vaccin, ça peut être... il n'est pas impossible que d'ailleurs que pour l'année 2021, ou peut-être même l'année 2020, celui qui aura la palme d'or de la revue Prescrire, ça sera peut-être le vaccin contre le coronavirus, parce que c'est quand même... jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, une prouesse technique et une efficacité tout à fait réelle par rapport à une tolérance tout à fait exceptionnelle, quoi. Les petits inconvénients sont individuellement tout à fait tragiques, mais collectivement sont absolument négligeables.
Alors le deuxième point, c'est la négation du hasard. C'est peut-être plus difficile, plus subtil à révéler.
Alors, oui, alors ça c'est une grande idée, c'est-à-dire l'idée que tout est lié. On définit le hasard, vous savez, par la rencontre de deux séries causales indépendantes. C'est-à-dire, il y a une chaîne causale, A entraîne B, entraîne C, entraîne D, puis de l'autre côté, il y a M entraîne N, entraîne P, entraîne O, entraîne P. Voilà. Et puis, on se rencontre. Voilà. Et en fait, les complotistes disent, oui, mais regardez, il y a une coïncidence entre les deux choses, ça ne peut pas être lié au hasard, donc il y a obligatoirement du sens. Je vais vous donner quelque chose de tout à fait qui montre bien que de temps en temps, la corrélation entre deux événements n'a rien à voir avec la causalité. Si on regarde le département dans lequel il y a le plus de voitures 4x4 immatriculées, eh bien, ça n'est pas dans un endroit où il y a des grandes inondations, ça n'est pas dans un endroit où il y a des montagnes, comme ça, c'est dans le 92. Vous voyez, alors avoir une voiture 4x4, c'est d'abord utile parce que quand on a 4 roues motrices, ça aide dans des chemins boueux. Voilà, on peut penser que ça aide en Afrique, par exemple. Vous voyez. Donc là, il y a un événement, voilà, mais son interprétation, si on pense que c'est lié à l'utilité des 4x4, eh ben on se trompe. Donc on risque de faire une causalité entre les deux. Donc les 4x4 sont plus utiles dans le département des Hauts-de-Seine. Non, ils sont utiles à l'ego de ceux qui achètent ces voitures-là, mais pas en raison de leur fonctionnalité propre. Donc on retrouve au fond la même chose, c'est-à-dire, on s'est dit, oui, mais là, il y a tel ou tel événement qui sont apparus en même temps, et donc il y a un lien entre les deux. On voit ça, par exemple, très bien, je vais donner un exemple plus médical, parce qu'autrement... On va
oui, dire... et puis restons un peu sur notre exemple, peut-être du début, effectivement, docteur Dominique
voilà.
Michel.
Ouais. Donc sur le plan médical, par exemple, il y a eu un moment où le vaccin contre l'hépatite B a été accusé de donner ce qu'on appelle les syndromes enfin, peu importe, on va dire, mettons, des scléroses en plaques, voilà, pour être un petit peu plus simple, c'est... Pas tout à fait exactement ça, mais on va dire ça. Et en fait, on s'est aperçu que il y avait certes une sorte de coïncidence entre l'augmentation de prévalence apparente entre le nombre de scléroses en plaques et le moment où on a commencé à vacciner beaucoup plus largement contre l'hépatite B. Voilà. L'hépatite B, je le rappelle, est une maladie sexuellement transmissible. Elle est donc très utile il est donc très utile de vacciner les enfants, garçons et filles, avant le début des relations sexuelles. Et donc, c'est pour ça que maintenant, cette vaccination est intégrée au programme de vaccination classique avec tous les vaccins qu'on fait chez l'enfant à 2, 4 et 11 mois. En fait, les études ont été compliquées, mais on a prouvé qu'en effet, il y avait un rapprochement possible, mais on n'a jamais pu prouver la moindre corrélation entre les deux. Donc vous voyez, de temps en temps, il y a des coïncidences, probablement ici parce qu'on a été beaucoup plus attentif à dépister les scléroses en plaques débutantes, parce qu'une partie des médecins, des neurologues ont été formés à ça, et qu'il faut du temps entre la formation et puis le déploiement, et de l'autre, la campagne de vaccination. Et puis parce que, probablement, les gens qui étaient anti-vaccins se sont dit « attention, attention, on va surveiller tous les effets secondaires ». Et que, bien évidemment, il y a des scléroses en plaques qui sont apparues chez les gens qui avaient été vaccinés parce qu'il y a des scléroses en plaques, qui est une maladie essentiellement de la femme, et plutôt de la femme jeune, hein, ça apparaît pas à 60 ou 70 ans, ça apparaît beaucoup plus tôt. Eh bien, il y a eu un lien entre les deux. Voilà, simplement, on n'a pas prouvé de corrélation. Et donc, les complotistes, ils vont dire « c'est pas possible que ça soit lié au hasard, c'est pas possible que ça soit une coïncidence, il y a une corrélation, et comme ils ont un intérêt à faire ça, ils vont dire « le vaccin de l'hépatite B donne des scléroses en plaques ».
Docteur Dominique Michel, troisième point, le refus de toute critique, qui est même revendiqué par ce type de documentaire.
Ça va rejoindre le point suivant, qui est l'idée de l'affect et de la place de l'affect. À partir du moment où on a envie de discuter, hein, dans le sens latin de la disputatio, alors on accueille la parole de l'autre. Ça, c'est tout à fait important, il me semble, tout à fait essentiel dans l'espace relationnel. Or, on s'aperçoit que dans la grande majorité des cas, le discours n'est pas un discours dialectique, il n'est pas un discours qui intègre une thèse et puis une antithèse. Il me semble que... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Soyons bien dans l'actualité. Actuellement, par exemple, on pourrait se dire, est-ce qu'il faut vacciner les adolescents contre le coronavirus ? Il n'est pas impossible que dans 3 mois, je vous donne une réponse différente de celle que je vais vous donner aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, et ça veut dire que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire au tout début de l'été 2021, c'est que ce n'est pas très très simple de savoir s'il faut les vacciner. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'on ne sait pas les effets au long terme de ces médicaments, en particulier les nouveaux vaccins avec l'ARN. On a l'histoire, une longue histoire autour de la vaccination, et que cette longue histoire autour de la vaccination depuis Pasteur, elle est très, très, très largement rassurante. Très largement rassurante. C'est-à-dire que le nombre de maladies graves, et surtout le nombre de morts évitées, est incommensurable par rapport au probablement... accidents minimes, moyens, sérieux, voire graves qui sont arrivés. Aucune commune mesure. Voilà. Petit exemple pour comprendre. Il y a des gens qui sont restés prisonniers dans leur voiture en feu parce qu'ils avaient leur ceinture de sécurité attachée et qu'elle était bloquée après l'accident. Mais c'est infinitésimal par rapport au nombre de gens qui ont été sauvés par la ceinture de sécurité. Donc, on met notre ceinture de sécurité. Voilà. Le vaccin, c'est pareil, c'est une ceinture de sécurité. Alors, par rapport aux adolescents, le deuxième point, alors le premier point, c'est on ne sait pas ce que ça donne au long cours. Et le deuxième point, surtout, c'est que chez les gens âgés, la maladie peut être grave. Chez les gens qui sont moins âgés, qui ont, mettons, plus de 50 ou de 55 ans, mais qui ont des comorbidités, en particulier ceux qui sont obèses, on sait que la maladie peut être aussi grave. Chez les gens qui sont très, très exposés, par exemple, qui travaillent dans le public, qui voient énormément de gens, ils ont tellement de risques d'attraper le virus qu'on peut aussi les vacciner. Pour les adolescents, moi j'aurais envie de dire pour l'instant, mais peut-être je changerai d'avis, voilà, ou en tout cas mon avis sera plus affirmé, pour les adolescents c'est plus compliqué parce que c'est une maladie qui le plus souvent est bénigne. Donc pour le diphtérie, la diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, toutes ces maladies-là, eh bien on sait qu'en vaccinant les gens, on empêche une maladie grave avec des conséquences graves. La rougeole, par exemple, chez un adulte, c'est grave. Chez un enfant, ça peut être grave. Donc on les vaccine. Voilà. Donc vous voyez, cette approche-là, il est important d'avoir une critique. Donc aujourd'hui, peut-être que ma parole, si je l'écoute dans 3 mois ou dans 6 mois, je la trouverai pas très très fine, je la trouverai pas très pertinente, avec manquant un petit peu de connaissances. Soit parce que je ne les ai pas aujourd'hui, soit parce que cette connaissance aura changé dans les mois qui viennent. Donc ce qui est caractéristique des propos complotistes en général, c'est qu'il n'y a pas cette approche. Oui, voilà ce qu'on peut penser, je vous donne des arguments pour nourrir votre réflexion, et je vous donne des arguments contraires pour nourrir votre réflexion. Vous voyez, ça c'est très important. Dans les théories complotistes, on trouve rarement ça.
Et à l'instant, vous disiez que c'était lié à l'affect.
Voilà, l'autre élément en général, c'est qu'on va accumuler des faits puissants, on va donner des exemples avec des situations absolument dramatiques, on donne des petits détails terrifiants, et en gros, on a une espèce de jouissance du tragique, là, et on va d'abord faire appel non pas à la raison, mais à la passion, à la sensibilité, aux peurs, à l'angoisse de fond, à l'anxiété, et au besoin d'être rassuré. Et ce qui est un mécanisme aussi très, 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 très important, c'est que lorsqu'il y a une angoisse dans une population, dans un groupe, dans une famille ou même chez un individu, si on lui propose une explication simple, ça va tout de suite apaiser l'angoisse. Voilà, l'approche scientifique n'est pas une approche qui est une approche rassurante en soi. Parce que souvent, elle dit, ben voilà ce qu'on sait, mais voilà aussi tout ce qu'on ne sait pas. Et en général, ce qu'on ne sait pas, c'est quand même bien plus grand. Donc, une grande partie de la population, et peut-être il y a une partie de nous-mêmes qui est aussi dans cette problématique-là, quand on a une explication simple, quand bien même on pourrait avoir quelques petits doutes, ça nous rassure, ou en tout cas, ça enlève quelque chose de notre angoisse. C'est là-dessus que les théories complotistes surfent beaucoup.
Docteur Dominique Michel, notre émission touche à sa fin. Évidemment, nous avions parlé au début de la bulle Internet, qui est le principal véhicule de la diffusion. On aura l'occasion d'en reparler parce que, évidemment, c'est extrêmement lié au complot. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir. I've never been there.